Get through the ups and downs, 'cause when you make it out, you will feel very, very proud. Say life is not that easy, I will shout it out loud. But if you have a reason to live, you will make it out. My reason is the fact my mother's watching from the clouds. So me go town to town, meeting sound.
Radio G 101.5 FM.
Il est 19h et c'est l'heure de la caisse de Seb. On est parti pour... Non mais attends, tu vas voir, parce que ça part maintenant le générique. Eh ben non, je me rate à chaque fois. Je vais y arriver à un moment. Ah voilà.
Kaizoku-oni, ore wa naru.
Trompez vite! Venez pas chez moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre, et même si ça part pas exactement comme on l'a dit, eh ben vous êtes bien sur le 101.5 de Radio G. C'est l'heure de la case de Seb. Comme tous les lundis, de 19h à 20h, on va vous parler du meilleur, du comics, du manga et de la bande dessinée franco-belge, et même des arts graphiques d'ailleurs, tant qu'il y a des bulles, et voire même quand il n'y en a pas, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de bulles que c'est pas de la BD. On a plein d'exemples. Mais bienvenue chez nous. Bienvenue dans la case de Seb. Ça va les gars?
Ça va et toi?
Salut!
Ça roule. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux.
Bah ouais.
On a eu passé deux petites semaines de vaches maigres, on va dire, puisque un coup c'était Tony, un coup Anthony, un coup Bertrand. Bon, il a fallu faire avec, mais enfin plutôt faire sans.
Il y a eu Yamina aussi.
Il y a eu Yamina, oui.
Elle est venue, Yamina.
Ouais.
Elle est venue. Fou du monde.
Là, elle finit à 21h30.
Ouais, enfin, elle vient
le jour, le voilà. Seul jour de l'année.
D'accord.
Tout est
bien.
Là.
Super.
Et ouais. Mais elle
écoute.
Non, elle finit à 21h30.
Ah, fin, elle travaille.
Écoute, avec ses petits patients, là, enfin, qui sont endormis.
Mais elle a prévu de nous faire une chronique. Hein.
Ouais, parce que...
Pour ce soir.
Non, 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 mais elle est
si,
en train de dire un truc.
C'était pour ce soir.
Et elle va nous faire une chronique d'ici quelques...
Secondes, quelques... Hein, parce que si c'est pour ce soir, ça va aller vite.
Quelques émissions.
À tout le monde, elle débarque. Hein.
Ah là là là. Bah, t'étais motivé, toi, en fait.
Oui, bah, bien sûr. Pour raconter des conneries, il y a peu besoin de se motiver.
Tout à l'heure, il était déjà très en forme.
Déjà, toujours.
Alors, j'ai pas de jingle news.
Bravo.
Bah, ouais, non, mais c'est, ça fait partie du jeu.
Les bonnes habitudes.
Par contre, on va pouvoir aborder deux petites news. Alors, bien entendu, le festival d'Angoulême qui débute.
Quand ça?
Ce week-end?
Oui.
Jeudi, c'est ça?
Jeudi, vendredi,
jeudi,
samedi, dimanche.
Vendredi, samedi, dimanche à Angoulême. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, c'est ce que je disais à mes petits camarades tout à l'heure. Moi, je pleure un petit peu puisque, du coup, il y a certainement mon auteur de manga favori qui va y exposer près de 150 planches. Il s'agit d'Yukito Kishiro, l'auteur de Gunm, qui est certainement mon manga de chéri de cœur et que je regrette de ne pas pouvoir y aller parce que. Voilà. Mais il y a des gens qui vont pouvoir m'envoyer des photos, peut-être.
Bah, c'est pas garanti, parce que moi, du coup, j'y vais pas forcément. Alors, j'y vais pour le plaisir, hein, mais surtout pour le boulot, donc peut-être si j'ai le temps, pourquoi pas.
Oui, mais pour le plaisir, pour me faire plaisir, ça marche pas.
Ah, pour
pas.
Te faire plaisir, je vais d'abord privilégier le boulot, et puis je verrai ensuite si j'ai un peu de temps pour te faire plaisir. Et puis après, si je veux, moi, me faire plaisir, si on parle, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il y a une expo. Calvo,
ah.
qui est un vieil auteur, ça va pas parler aux plus jeunes d'entre nous ici présents, mais Calvo, c'est monsieur qui a fait La Bête est morte en l'occurrence, qui est une espèce de bande dessinée un peu emblématique qui a été faite pendant l'occupation, bien avant Maos, représente en fait les nazis en loup, les Anglais en mouton, je crois. Enfin voilà, c'est tout un univers animalier. C'est une superbe bande dessinée. Calvo était un grand monsieur de la bande dessinée. Et pareil, il y a une expo monstrueuse sur Calvo et ce genre de trucs qu'on ne voit que très rarement. Ouais, t'es en train de regarder Calvo.
Je suis en train de chercher toutes les expos parce qu'effectivement, parle de Calvo.
Il y a une expo Wallace Wood aussi qu'il ne faut surtout pas rater. Wallace Wood qui était un grand dessinateur. Alors après, du coup, le hasard fait que Initiative Comics vient de sortir pile poil un bouquin sur Wallace Wood. Ça tombe à point nommé pour Comics Initiative qui décidément ne sort que des belles choses en ce moment. Donc voilà, il y a plein de choses à voir dans ce que tu me disais, hein, en l'occurrence Gunm, et puis il y a d'autres auteurs japonais aussi.
Une exposition sur Catherine Meurice,
ouais, voilà.
Il y a une exposition sur Yoshiharu Tsuge, Je voyais alors, même une exposition sur une rétrospective Robert Kirkman à l'occasion de la fin de Walking Dead.
En l'occurrence, ouais.
De The Walking Dead, parlons correctement. Jean Frisano.
Non, ça va être une belle édition hein, cette année. Je suis allé voir un peu les expos, effectivement. Alors, il ne faut pas y aller sur seulement une journée si vous voulez voir un maximum d'expos. Prévoyez peut-être plusieurs jours.
C'est clair, c'est pour ça que
c'est Et si vous n'avez pas déjà prévu plusieurs jours, c'est mort parce que concrètement, il n'y a pas une chambre d'hôtel aux alentours qui n'est pas prise.
Ou alors, il faut dormir chez l'habitant à plusieurs dans le même lit.
Ouais. Mais là encore, une fois, c'est
cela ne nous regarde
pas. Ça s'anticipe.
Il y a un engouement si énorme.
Pardon ?
Il y a un engouement si énorme que tous les hôtels, les choses autour sont réservées.
Ouais.
Ah oui, non, c'est
un truc... On est sur un festival international de la bande dessinée, Bertrand.
C'est à combien de temps de route d'ici ?
3 heures.
C'est un peu long.
Ouais, ça douille un peu.
Oh, ça se fait.
Parce que c'est vrai que l'exposition de Gun, j'étais plutôt chaud.
Ah bah écoute, propose à Yamina.
Ouais.
Tu fais l'aller-retour dans la journée, ça se fait. Hein.
Ouais.
Bref. Autre petit sujet d'actu, un sujet qui a fait travailler. Je cherchais un mot super sympa, mais qui a fait pas mal sourire et réconforter sans doute les auteurs. C'est ce fameux rapport Racine qui a été enfin publié et remis au gouvernement. Un rapport qui fait un constat et un état des lieux du métier d'auteur artiste.
Dramatique.
Dramatique, qui n'est pas très jouasse, et qui, là où c'est moins dramatique, dresse une liste de mesures intéressantes et qui pourraient permettre d'aller dans le bon sens pour aider un petit peu la situation des auteurs qui ne sont pas des indépendants comme les autres et qui ont besoin d'une révision certainement globale des statuts pour pouvoir aller un petit peu mieux. Et du coup, j'ai parcouru dans les grenilles en fait le
rapport. J'ai pas fait, moi j'ai pas pris le temps, tu vois.
Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, dont certainement la mesure qui, à mon sens, est la plus importante. Un retravail en fait des accords entre auteurs et éditeurs qui ne serait plus juste des avances sur droit, mais une sorte de forme salariée. Et du coup,
ça changerait
beaucoup de choses.
Ouais, bien sûr, mais ça fait longtemps que c'est suggéré, que c'est dans les tuyaux. Il y a même certains éditeurs qui fonctionnent déjà plus ou moins comme ça, enfin en tout cas qui essayent. Il y a Bambou, quelques temps, qui a proposé une manière de fonctionner un peu différente. C'est vrai que ce serait une belle avancée. Après, je ne suis pas sûr que tous les éditeurs soient prêts à le faire, parce qu'on a eu une petite saillie de la part du syndicat national des auteurs en la personne de son président qui a dit que... Alors après, c'était plus sur l'histoire de la rémunération des dédicaces en festival, donc, qui est de toute façon un sujet un peu compliqué. Hein. Après, il y a des auteurs qui sont pour, d'autres qui sont... Il y a forcément des effets retors à ce truc-là, donc... Là-dessus, voilà, moi, je ne me prononcerai pas. Simplement, lui, il a décidé que ce ne serait pas les éditeurs qui paieraient. Après, si les éditeurs qui paient, ce sera les lecteurs. Et ça, moi, ce n'est pas forcément un truc
qui m'embête un peu plus.
Qui me réjouit. Et puis, bon, voilà, il a dit 2-3 trucs. Il a dit que c'était les éditeurs qui prenaient tous les risques. On pourrait potentiellement en discuter autour d'un verre, un de ces quatre. Mais bon, voilà. voilà. Donc, ouais, dans le rapport Racine, c'est une bonne nouvelle. Après, pour l'instant, ça reste des propositions. Donc, comme toutes les propositions, il faut qu'elles soient appliquées. Faut qu'on voit comment elles évoluent in situ dans le temps avec les différentes configurations d'auteurs qui existent, ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, ceux qui sont plus à l'aise, ceux qui... Voilà, il y a plein de choses qui...
Il n'y a pas un seul statut d'auteur.
Qui rentre en jeu. Mais on a un peu la sensation d'être un peu plus considéré en fait qu'un temps, parce qu'on est un peu les... Alors on n'est pas les grands oubliés, il y en a plein d'autres hein, concrètement, enfin toutes les populations professionnelles minimes sont un peu oubliées. C'est vrai que là, du coup en France, la situation se paupérisait tout doucement et on sent qu'on va un peu vers du mieux. Mais bon, voilà quoi, on verra sans doute qu'à Angoulême, ce sera l'occasion de montrer que pour beaucoup, ça devient très compliqué et qu'on n'est pas spécialement satisfait de l'état actuel des choses.
D'où on va, ouais. Bref, soyons, passons
sur
quelque
chose. Désolé pour ce discours syndicaliste.
Non, mais c'est effectivement partie des choses en fait qu'il faut...
Qu'il faut améliorer.
Qu'il faut améliorer, travailler. Je dirais qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que en allant que les éditeurs et les auteurs aillent dans le même sens pour que ça puisse fonctionner.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais au moins, il y a une marge de franchise. Après, l'escalier est très haut, mais on va vers du mieux, on va vers du mieux. Enfin, je pense, j'espère. Je veux être optimiste pour une fois. Allez,
soyons optimistes. Allez, on va parler un petit peu de bande dessinée du coup, après ces quelques instants de news sans fond sonore, je désole encore, mais je vais y arriver un jour.
Un jour tu y arriveras.
Un jour on fera l'émission parfaite.
Ce jour-là, on applaudira des deux mains. Enfin, moi, je serais carrément debout sur la table, hein, honnêtement, si ça arrive un jour.
Waouh.
Comme si on aurait découvert un nouveau continent.
Qui veut se lancer ?
Se lancer ou juste faire une chronique ? Parce que c'est
faire
pas
une chronique,
chose,
hein. Se lancer à faire une chronique.
Bertrand, il est chaud. J'ai croisé son regard, j'ai vu ses yeux. Il pétille, il est à bloc. Il a envie, il a écrit. C'est le seul qui a écrit encore.
Shifumi.
Ah, si vous voulez, on fait un Shifumi.
Anthony, t'as perdu.
Oui, c'est parfait, parce que moi, je voulais le faire de toute façon.
Eh ben, go !
Pourquoi il se témoigne pas ?
Hein, je sais pas.
Parce que j'aime bien quand les gens ils se battent pour moi.
C'est très compliqué comme garçon.
Du coup, cette fois-ci, moi je vais pas parler de manga. Je vais parler d'un comics.
Ça nous changera, tiens.
Ouais, hein. Mmh. Un jour je parlerai de BD de belge, t'inquiète pas. Peut-être.
Il y a pas de BD. Enfin, si tu veux. Nous, moi je suis plutôt
un
BD française.
Un style franco-belge en fait.
Ouais, puis c'est plutôt bande dessinée européenne si on veut être au goût du genre. Enfin, arrêtez de penser qu'il y a que la France et la Belgique qui font de la bande dessinée.
Ouais, parce qu'il y a plein d'auteurs italiens, puis un auteur espagnol qui sont plutôt pas mal.
Ouais.
Et puis si on veut faire globalement un petit pied de nez, admettons quand même que The Walking Dead c'est toujours jusqu'à ce que la Grande-Bretagne s'en aille. C'est une BD européenne.
Ils sont pas encore partis. C'est dans 2 ans que ce sera officialisé. Bah oui, à la base, c'est anglais.
Ouais, c'est anglais. Hein. Ouais. C'est du comics, mais c'est anglais. Bon, allez.
Pour le coup, ce comics, il s'agit de Umbrella Academy, donc le 3e tome, L'Hôtel Oblivion.
Merci, Anthony. C'était une très belle
chronique. Waouh, la vache.
Allez,
méchanceté,
je sais pas si c'est bien que tu fasses des chroniques de bande dessinée européenne, finalement. Vas-y, continue.
Allez, on t'écoute. On arrête de dire des bêtises, promis.
Oh bah non, moi je promets rien du tout là-dessus. Je suis désolé. Hein.
Non, mais j'ai plus besoin de parler, j'ai compris. Hein. En fait, vous vous battez pour que je commence et puis pas du tout.
Ah, on s'est pas du tout battu pour que tu commences. Ah,
si. Ton intro, elle est un peu longue quand même, du coup. Chers amis,
allez,
on vous laisse écouter la chronique d'Anthony, promis. On se tait.
Non, je promets rien.
Voilà, c'est donc après mon visionnage de la série Netflix que j'ai découvert Umbrella Academy et donc que je me suis octroyé le droit de chroniquer ce tome. Donc vous dans ce tome, vous allez pouvoir retrouver chacun de vos héros et dedans, il m'a perturbé parce qu'en fait il a débranché mon casque et du coup je m'entendais plus, ça faisait trop bizarre. Bref,
allez.
Oui. Donc Umbrella Academy. Donc j'ai découvert ce tome en fait qui est dans la continuité de la série. Je dirais qu'il opère comme une troisième saison. En fait, parce qu'il a là, ou d'une deuxième saison.
Si tu parles pas dans ton micro, on t'entend pas.
Je sais plus où est-ce qu'elle est rendue la série sur Netflix.
Excusez-moi,
il y a une saison pour l'instant.
Une seule saison
qui correspond aux 2 premiers bouquins sortis en France.
Voilà. Merci Tony.
Je t'en prie, si tu veux de l'aide, n'hésite pas.
Merci. Du coup, cet opus en fait fait office de 3e saison, puisque du coup il prend la suite juste derrière et nous parle. Si, mais arrête de tiquer comme ça. Il fait des têtes de bizarres là et moi ça me perturbe.
Vas-y. On te laissera réécouter l'émission.
Le direct.
Allez.
C'est une répétition, t'inquiète, la vraie.
Ouais, on est enregistré, t'inquiète.
Oui,
pas.
Oui, t'inquiète pas. On coupera au montage.
Le tome donc s'ouvre en fait sur non pas les héros mais sur des méchants qui ont déjà été arrêtés par le passé et qui cherchent à s'enfuir d'un endroit étrange qui s'appelle l'Hôtel Oblivion.
Mm-hmm.
Ça sert en fait d'énormes introductions en fait à ce qui se passera par la suite, mais je ne vous spoilerai pas. Toujours est-il que ces méchants qui avaient été enfermés dans cet Hôtel Oblivion, qui n'a pas l'air d'être un hôtel commun. En effet, il y a des pièces ouvertes parfaitement vides, d'autres pièces fermées où on n'a vraiment pas envie d'ouvrir les portes. Ces deux méchants vont chercher à s'enfuir avec un paquetage bien intéressant sous le bras et vont vraiment devoir faire équipe alors que c'est pas du tout dans leurs habitudes pour pouvoir s'en sortir. Cet hôtel Oblivion, il est d'autant plus étrange que sur la couverture, il est dessiné en fait en petit, comme une maison de poupée, dans les bras d'une jeune femme. Donc
Mais qui est-elle ?
Cet hôtel, du coup, sert apparemment de prison extra-dimensionnelle pour les divers méchants. Or, nos deux méchants du début, comme je vous l'ai dit, vont faire équipe et s'en échapper. Mais comment ils ont réussi ? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à s'échapper par eux-mêmes ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui devraient nous intéresser dans cet hôtel Oblivion ? Tout ça, on le découvrira en feuilletant les pages. Toujours est-il qu'au niveau de la narration, moi j'étais un petit peu troublé. Parce que comme les héros de cette série sont plutôt... comment je pourrais dire ça, ont des caractères forts et sont la plupart du temps séparés les uns des autres. On suit l'aventure à travers chacun leur petite aventure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en même temps, d'autres avant, d'autres après, surtout avec l'un des héros qui justement voyage dans le temps et l'espace. Donc c'est, au niveau de la narration, c'est assez confus pour moi. Toujours est-il que ceux qui aimeront recoller les morceaux du puzzle, etc., eux, ça pourrait les intéresser. Pour moi, en tout cas, c'était très...
Ils sont huis clos, quoi. Mais à voilà. Travers le temps et l'espace.
Oui.
Après, pardon, hein, mais c'est des codes en fait qu'il faut intégrer. Parce que si t'avais lu les deux premiers, ça fonctionne déjà comme ça. Donc, je pense qu'à partir du troisième, t'es plus vraiment étonné de voir cette narration qui est un peu éclatée, qui du coup joue un petit peu avec la notion d'espace et de temps, qui est un petit peu accrue effectivement dans ce troisième tome-là, quoi. Mais c'est des choses que voilà, sur le premier, deuxième tome, c'est leur façon de fonctionner. Donc là, pour le coup, tu vois, on est sur des choses acquises.
Choses qui fonctionnent différemment dans la série, puisqu'on n'a pas.
Ça marche pas. Enfin, ce qui marche en bande dessinée, ouais, voilà, effectivement, ne marche pas. On a une linéarité dans la série télé que t'as regardée, que tu retrouves pas en fait mais qui a son importance parce que du coup, il y a, comme tu disais, un personnage qui voyage en fait dans le temps. Qui s'amuse et tout ça participe à ça. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé. Après, je peux comprendre qu'effectivement, quand t'as pas vraiment les codes, parce que du coup, on va pas se mentir, graphiquement parlant, les personnages ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a sur Netflix. Mmh. Et du coup, on peut être effectivement un peu paumé au départ. Et je pense que comme toi, t'es arrivé sur le tome 3 et que déjà les personnages ont été présentés en amont, etc., les auteurs font plus cet effort-là, tu vois.
Oui.
Donc, pour quelqu'un qui déboule sur le troisième directement, ça peut-être être un peu compliqué.
C'est clair.
La chose qui m'a étonné également aussi, c'est la différence en fait au niveau de la couleur qui a été apportée par, que je retrouve son nom, par Nick Filardi. C'est qu'en fait, on a, lors de l'introduction, lorsque ça parle des méchants ou de moments un peu plus calmes, on va avoir en fait des couleurs assez neutres, assez sobres, en fait, comme on pourrait le voir nous dans la vie de tous les jours. Mm. Mais lorsqu'on atteint en fait un moment où il se passe quelque chose d'un peu fantastique, un peu fantasmagorique, on va péter le camaïeu des couleurs vives. Ça va être très très vivant en fait. Et du coup, je trouve que c'est un truc qui fonctionne vachement bien dans cette BD, où on a vraiment le côté très terre-à-terre entre le mal-être de certains personnages, etc., où on entre un peu plus dans leur psychologie, dans leur vie de tous les jours. Mmh. Et lorsqu'on retrouve un petit peu des moments un peu plus épiques, un peu plus super-héros, et ben, les couleurs en fait, vont nous faire revenir à ce qu'on a pu voir en fait, dans d'autres comics de super-héros. Donc ça, c'est un code que j'ai trouvé particulièrement intéressant.
Ouais, c'est chouette. Ouais. Bah après, c'était Dave Stewart hein, qui était de mémoire sur les deux premiers. Donc la palette de couleurs de Stewart, elle est respectée. Et comme tu disais, ça change un petit peu. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est cet effet de style qui s'amuse à mettre où il y a certaines couleurs qui bavent un peu sur certains personnages. Je sais pas si... l'avoir sous les yeux. Bon, après,
l'ambiance graphique va déborder sur le personnage en lui-même, c'est ça hein.
Non, mais parfois, voilà, il s'autorise des petites choses comme il y a là, en fait, typiquement. Et à une époque, en fait, c'était synonyme de problème d'impression. Là, pour le coup, c'est des effets de style qu'il a rajoutés à droite à gauche qui, moi, m'ont un petit peu dérangé, m'ont un petit peu gêné. Après, effectivement, comme tu disais, voilà, typiquement, en fait, tu vois, sur cette page-là, en l'occurrence... Là, il y a des choses qui ne servent à rien. La couleur bave, en fait, à l'extérieur du personnage. Tu peux montrer aux autres si jamais ils veulent voir. Mais voilà.
Ah, exact.
C'est un parti pris graphique qui, moi, m'a pas forcément plu. Mais comme tu disais, par contre, la palette qui a été mise en place par Stewart, encore une fois, elle est très chouette. Et lors des scènes d'action, effectivement, ça, c'est un peu plus pop. Et c'est pas inintéressant. Mais ça, c'est marrant parce que tu vois, on s'est pas concerté spécialement avec Anthony. Mais là, pareil, moi, je vais parler de comics indés ce soir. Là, on est sur du comics indé qui l'est beaucoup moins depuis que la série Netflix est sortie. Mais quand c'est sorti il y a 4-5 ans, en fait, c'est passé totalement inaperçu ce truc-là. Alors que c'est une perle, enfin, c'est absolument génial.
Par contre, là aussi où ça marche bien, je parlais de la narration qui pour moi me paraissait un peu chaotique. Toujours est-il que l'action en elle-même, elle est bien représentée en fait. Ça, c'est quand même un comics qui a du mouvement. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses à intégrer en fait en un seul tome. Et on parle quand même d'un tome assez épais, assez conséquent pour le coup. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'informations à gérer. Il se passe pas mal de choses et les dessins rendent bien en fait tout ça en mouvement. Donc ça, assez sympa aussi à lire. C'est un peu indigeste pour moi parce que j'avais du mal à suivre, mais comme l'a dit Tony, j'avais pas les codes des deux premiers. Si vous avez lu, les auditeurs ont lu les deux premiers tomes, c'est quelque chose que je peux totalement leur recommander en tout cas.
Ouais, il faut absolument leur recommander. Hein.
Et puis forcément, bah voilà, Tony est en train de le feuilleter. À la fin, on a quand même le droit à quelques esquisses de personnages, de décors, etc. Donc c'est toujours un petit plus non négligeable dans un investissement. Je te redis les informations.
Oui, je veux bien.
Donc c'est Umbrella Academy, le troisième tome, L'Hôtel Oblivion, de Gérard Way, Gabriel Ba et Nick Filardi, aux éditions Delcourt.
Alors, je suis en train de rechercher, c'est ça. Parce que faut savoir que donc là, tu es sur le tome 3 et aux éditions Delcourt, juste avant Noël, il y avait un tome spécial qui est sorti qui s'appelait Hazel et Cha-Cha sauve Noël. Ce sont les deux personnages qu'on peut retrouver non seulement dans la série, mais aussi dans le comics. Personnages assez emblématiques de la série, s'il en fallait. Et que je trouve quand même splendidement retranscrit à l'écran.
Oui, clairement, je suis d'accord avec toi.
Ils sont complètement, au moins autant déjantés dans le comics que dans qu'à l'écran, et ça marche ultra bien. Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale?
Allez. Bah
alors
oui.
J'avais une possibilité, j'ai trois choses. J'ai 1979 ou Allons courir sur la colline ou Défonçons-nous les oreilles. Qu'est-ce que vous préférez?
Moi je suis 79, Allons courir sur la colline.
Ouais, moi aussi.
Là, c'est deux chansons différentes.
Et bah, Allons courir sur la colline,
ouais,
s'il te plaît.
Allez, Allons courir sur la colline.
Par le temps qu'il fait, c'est bien.
On se retrouve tout à l'heure sur le 101.5 de Radio G.
Get out.
on arrête de courir sur la colline, Running Up That Hill de Placebo, qui était une reprise. Qu'est-ce qu'il que tu racontes, Anthony?
On t'entendait pas.
Ah, c'est pas moi, c'est
grave, tant pis.
C'est Tony qui marmonne dans son micro.
Je te voyais bouger des lèvres et ouais, il se passait rien. Je sais, il communique, le monsieur.
D'accord. Il le mec me censure, en fait.
Voilà. Bon. Ça nous rajeunit pas, ça, mine de rien. Bref. Moi j'écoutais
c'est
ça.
C'est full déprime ce soir.
Ah non,
on
mais...
dit un truc de là en déprime.
Alors, soit tu y vas, Bertrand, soit
allez,
c'est moi
vais.
Qui vais. Non, ce qu'on fait, c'est que j'y vais.
Ah bah d'accord.
À
la pause, on me dit j'y vais, là on me dit j'y vais plus.
Et ben, t'y vas plus.
Mais c'est vrai que ça change tout le temps. Non, mais c'est pas confortable, je suis d'accord.
C'est pas des conditions de travail. Voilà.
Pauvre et ben, va manifester.
Je suis de ton côté.
Je vais de mon gilet jaune.
Non, on n'a pas le droit de faire de politique là pendant une certaine période.
C'est apolitisé.
Voilà. Moi, je voulais vous parler de Sale Gamin, en fait, avec deux BD qui sont sur la même thématique, qui pourtant bien, bien différentes. Je vais commencer avec Les Sales Gosses de Peggy Adam. C'est aux éditions. Atrabile, je ne sais pas comment on dit. Atrabile,
ouais.
Atrabile. Alors, je pense que ça doit être. C'est du comic, ça, à la base, Peggy Adams. Je demande une confirmation.
Pardon,
à quelqu'un
excusez-moi.
Qui ne me regarde pas.
Pas du tout, j'étais complètement...
Son micro était
Peggy
coupé.
Peggy Adams, c'est du comics à l'origine.
Peggy Adams, ouais, ouais, c'est
ouais.
Du comic. Peggy Adams.
Alors c'est un bouquin que j'ai pris, donc ça te montre des gamins en fait, qui sont des ados, des jeunes ados qui sont assis sur l'herbe en train de rien faire. À peu près, ils discutent, il y a un ballon, il y en a une qui est en train de fumer une cigarette, visiblement, voilà. Et ils sont au pied d'un groupe d'immeubles avec des voitures au fond. Et c'est à peu près tout ce que je vais vous raconter. Si ce n'est que c'est l'histoire...
Merci Anthony.
Si ce n'est que...
Je vais l'acheter.
Cette histoire, en fait, est à peu près la... Cette image résume à elle seule tout le bouquin. C'est l'histoire, en fait, d'un groupe de 6 enfants qui vivent juste au pied de cet immeuble quelques semaines pendant les vacances d'été. Là où c'est phénoménal, c'est que c'est à peu près tes vacances d'été à toi, les tiennes, les miennes. C'est notre enfance, en fait, qui est résumée là-dedans. Et c'est hyper bien fait, puisque on nous raconte une histoire où, ma foi, il se passe pas grand-chose à part... des enfants qui ont des petites amourettes, qui sont peut-être un petit peu déçus, vont se faire attraper pour avoir fumé une cigarette de trop, alors que maman, elle sait que tu ne dois pas fumer, qui vont aller se réfugier dans la cave de la vieille dame qui est décédée pour tranquillement manger des cookies et se raconter des histoires d'horreur. C'est juste quelques semaines d'été racontées par des enfants. Tu voulais rajouter ?
Je voulais rajouter que Peggy Adam, en fait, est une auteure française.
Ouais,
pas du tout du comics.
C'est pour ça que je trouvais un petit peu bizarre. Mais c'est pas du comics, du coup. C'est Peggy Adam, excusez-nous. Excusez-nous si vous nous écoutez.
Oui, mais on s'est rectifié immédiatement.
Ça. Oui, t'as vu ça.
On corrige bien.
Ça me titillait, donc.
Tu as bien fait. Mais du coup, c'est une belle BD. Donc, c'est un petit format. Ton expertise, c'est un petit format.
Là, pour le coup, on n'est pas très loin d'un format comics. Après, les formats, ça veut plus rien dire, en fait, en ce moment. Parce que tout le monde est un peu en train d'éclater les formats. Là, on s'approche du format comics.
Ça peut roman graphique un peu.
Ouais, mais après, les romans graphiques, t'en as toute taille, c'est toujours pas.
Voilà, roman graphique, c'est un petit peu. T'as fait ce que tu veux avec ton format. Et
oui, c'est ça, ouais.
Ce n'est pas...
Après, tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec le format. C'est-à-dire qu'avant, le fameux format qu'on retrouvait sur les Gaston, sur les Lucky Luke, qui était un truc à peu près cohérent d'un éditeur à l'autre, là, maintenant, tout le monde s'en fout et vas-y que je te fais le format dont j'ai envie. Et c'est pas plus mal, quelque part.
Oui. C'est chiant pour les bibliothèques.
Oui, bah après.
Mais bon.
À s'en remettre.
Il n'y a que les mangas qui ont maintenu le format.
Oui, bah
écoute, encore,
ça va changer.
Ils ont décidé de vivre dans le passé. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Après,
c'est un manga, ça.
Mais bien sûr.
Ah ouais.
Eh ouais.
Ça t'énerve pas.
Et encore, qu'est-ce que tu dis, Anthony?
Le manga mainstream, monsieur.
Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, pour le coup, c'est vu que ces enfants, en fait, vont vivre, du coup, cet été-là, c'est au niveau de du panel de sujets à aborder. Parce que ces enfants vont forcément se parler un petit peu de tout. Et du coup, vers quelle tranche d'âge, en fait, ça s'orienterait, ces discussions?
C'est des discussions aussi simples que celles qu'on pouvait avoir, nous, étant gamins. Alors, je me suis retrouvé à travers à peu près tous les gamins. Et les panels de sujets abordés vont parler à chacun des enfants. Y a une petite fille qui se fait violenter par ses parents, il y a un gamin qui vit juste avec sa maman, son père est quasiment tout le temps absent, et quand il dit que il a plein de familles et puis que quand il rentre chez lui c'est le roi, les gens ils font mais c'est où? C'est au bled. Et du coup le petit gamin en fait tous les étés il retourne chez lui, enfin dans le village d'origine de ses parents, et il a ses oncles, ses tantes et tout ça, et effectivement c'est la grande fête. Mais du coup c'est chaque enfant à des choses différentes. Il y en a une où le frangin est un espèce de, je vais pas dire malade mental parce que c'est méchant pour les malades mentaux, mais le gars a un pet au casque et il met des grands coups de poing dans la porte de sa sœur. Et c'est vraiment une petite vie de cité qui fonctionne bien. Ces gamins ils s'aiment, ils se déchirent. Il y en a un qui va taper sur la tête d'un autre qui va fuir en courant, et puis il dit ouais mais il était armé, c'est pour ça que je l'ai pas tapé. Mais tu vois, on se trouve les gamins qui vont se trouver des excuses, qui vont vivre chacun de leur côté des petites choses, et qui font que ça devient c'est une vraie petite vie, c'est vivant, c'est hyper intéressant. Et ouais, moi j'ai retrouvé pas mal de mon enfance là-dedans, donc c'est super cool.
Est-ce qu'on peut dire que nous on a un gamin qui n'a pas grandi dans le studio?
Oui, bien sûr.
C'est quasiment fini mon avion en papier.
Il était en train de faire un avion
quasiment. Mais attendez.
Je sais pas si on entendait les gros coups qu'il mettait sur la table pour faire son avion.
Je faisais deux pour pas que ça s'entende, mais continue, c'est intéressant.
Est-ce qu'on peut dire que les auteurs de BD sont des enfants qui ont réussi à canaliser leur énergie
créative? Mais encore une chance, oui, bien sûr. De toute façon, c'est comme ça qu'on est. On est créatif,
Les sales gosses de Peggy Adam aux éditions Atrabile, qui est vraiment vraiment sympa, qui est très c'est très joli en plus graphiquement, c'est très mignon. Hein, je sais pas si l'expertise technique.
Je vois pas en fait de là.
Il y a beaucoup de la couleur pas mal
en
aplat.
C'est terrible.
Et ça marche franchement bien. C'est y a des petites ambiances colorées qui permettent de vraiment renforcer certains moments du récit qui fonctionnent.
La mise en couleur est chouette, et le dessin aussi. Après, sur le dessin, on est sur des choses assez simples. Hein. Tu reviens sur un peu du Marion Montaigne, des choses très, très simplifiées. Mais
ça aide à s'ancrer dans la partie enfance, en fait.
Tout à fait.
C'est ça qui fait que ça renforce.
Enfin, tout à fait. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais c'est chouette. Hein.
Pour le coup, ça change pas mal aussi de ces histoires de vacances d'été qui parlent de mer, de montagne, de maison à la campagne, etc. Peut-être on a un truc un peu plus proche de la réalité de certaines personnes. Enfin, moi, en tout cas, comme sujet, déjà, ça me parle. Et puisque du coup, j'étais un de ces enfants qui s'ennuyait en bas des tours, plus jeune, avec mes copains. Retrouver, donc,
Petit bonhomme.
Hein, j'ai pas mal vécu, t'inquiète pas, au contraire.
Vas-y, continue, je t'en prie. Pardon.
Non, j'allais juste enchaîner sur une anecdote inutile, mais c'est pas grave.
Voilà. Alors, non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est quand on te demande de résumer ce bouquin-là, c'est des gamins qui font rien de particulier, en fait, à part les idiots en bas des tours. Tu sais, ça commence, ils sont juste assis en haut d'un toit, tu sais, les premiers toits, en fait, qu'il y a. Puis il y en a qui fait « Eh, on saute, chiche !» Ouais, chiche, il saute. Et du coup, c'est le truc que font tous les gamins.
Bah oui, et quand on s'emmerde, on devient créatif, hein, forcément.
C'est ça. C'est un message pour tes collègues auteurs?
Pas du tout.
Mais un très très bon bouquin, Les sales gosses de Peggy Adam aux éditions Atrabile. Ou Atrabile.
Atrabile plutôt, je pense. Enfin, après, encore une fois, après Peggy Adam, je ne dis plus rien.
On leur posera la question. Et puis, je vais enchaîner avec un autre bouquin qui parle de sales gosses. Ça s'appelle Gravity Level. C'est de Paglioni et Macciocci aux éditions Sarbacane. C'est tome 1 sur 2 qui s'appelle Désertion. Alors là, on est sur un truc qui est à la fois un trip graphique et un trip scénaristique. Imaginez, un jour, notre Terre n'a plus de gravité. On va pas dire que c'est pas grave, puisque les gens en fait vont se retrouver projetés progressivement vers les cieux. Et du coup, il y a des cités qui vont être développées sous Terre, qui vont pouvoir aider à maintenir une certaine gravité. Il y a des espèces de systèmes de bottes en fait qui vont pouvoir aussi permettre de modifier la gravité qu'on va vouloir exercer sur le sol. Et on suit l'histoire d'un groupe de 5 jeunes qui sont des sales gosses. Quand ils sont en visite à l'extérieur en groupe scolaire pour voir ce qui se passe quand même sur la surface, puisqu'on a quand même réussi à rétablir un semblant de gravité via ces bottes, eux ils se font un peu la malle, ils vont aller fumer des clopes, enfin ils font n'importe quoi. Et puis leurs actions vont emmener à un moment Et là, c'est un petit peu dommage de vous le dire tout de suite, mais à se faire poursuivre par une espèce de police assez répressive dans la cité, qui va les obliger à se barrer de cette cité pour aller faire une espèce de road trip à l'extérieur. Un road trip en espèce de oiseau mécanique, on ne sait pas trop exactement ce que c'est, mais c'est censé être le seul véhicule viable et qui permettrait de circuler de manière à peu près safe à l'extérieur. Graphiquement, c'est, je sais pas comment dire, il y a une espèce de trame qui est appliquée tout le temps, tu sais, l'espèce de trame à points qui donne un effet un petit peu vintage dessus. Les couleurs, elles sont, c'est beaucoup d'aplats, mais il y a beaucoup de d'ombrages qui sont ajoutés. Il y a des grosses zones en fait de couleurs, je sais pas comment l'exprimer. Ça déborde un peu aussi, comme tu disais tout à l'heure.
Bah oui, c'est ce que je vois, ça déborde. Ça a l'air d'être à la mode, ce truc-là, mais après... Bah, c'est pop, en fait, comme mise en couleur.
Et ça marche franchement bien. On s'attache bien. Alors, ces gamins, ils ont tous des aspects visuels un peu différents. Il y en a un qui a des espèces de yeux un peu à l'Amiral Akbar de Star Wars. L'autre qui a des dents en pointe. Ils ont tous des espèces de tatouages, de scarifications. Mais c'est dû en fait à cette absence de gravité. C'est des mutations qui ont été faites.
Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est quand même violent l'absence de gravité. Quand même.
C'est bah, Corona 2.0 en fait.
Quand tu
pas des choses comme ça malheureusement.
Quand tu te retrouves à vivre sous terre avec une gravité modifiée, forcément il y a des choses qui se passent différemment.
C'est vrai, c'est pas faux.
Bon, et ça marche vraiment très très bien. On passe un bon moment. Moi, pour une série qui va se finir en deux volumes,
ouais.
J'avoue que je boude pas mon plaisir. Je pense que j'en aurais pris un petit peu plus. 3-4 volumes, ça aurait certainement été après bon, avoir comment ils vont.
Temps. Ah oui, tu veux dire, faut voir comment le tome 2 se comporte. Quoi.
Mais ce qu'il y a, c'est que ce tome-là, c'est vraiment un tome d'introduction. On nous présente l'univers,
ouais.
Ses règles et les gamins qui finissent par se retrouver en dehors en fait, de cette bulle safe. Et peut-être à la recherche d'autres zones où la gravité peut avoir encore. Persister et du coup c'est franchement bien et allez-y hein. Donc Gravity Level tome 1 sur 2 Désertion et c'est de Paglioni et Maciocci. Je pense que je dois pas me planter sur les noms.
Non, je pense pas. L'essai, on sait pas trop.
Maciocci.
Ça a l'air un petit peu italien.
Lorenzo Paglioni qui est né en Italie et Vittoria Maciocci qui est né à Rome. Hein. Oui. On va dire Maciocci.
En Italie aussi, du coup.
Ouais, plutôt. Oui. Ouais.
Tu penses
ouais. T'es sûr que c'est pas la Suède de la Norvège?
J'ai un doute.
Ah là 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 là. Bon, allez.
Si c'est le Vatican, on dit Italie ou pas. Alors.
Allez, Bertrand.
C'est à moi donc?
Oui, c'est à toi.
Ah bah tout de même.
Bonjour.
T'as 3 minutes.
Bonjour, Bertrand.
Excusez-moi. Une fois.
On l'a perdu.
J'ai cru qu'il y avait un fantôme dans le couloir. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga fraîchement sorti. J'ai l'habitude de faire des choses un peu plus vieilles, mais aujourd'hui je me suis dit que je vais faire quelque chose d'actualité pour changer un petit peu.
Mais il s'agit avec un grand plaisir.
De Guess What, publié chez Kiyun. Donc déjà, c'est un seinen. Donc pour un public ayant au moins 16 ans, pas de petites culottes, pas de boobs et autres bizarreries japonaises, mais du monstre, de la violence et du sang. Donc le Guess What, ça a été publié par un binôme. Au dessin Ubi qui est au scénario Abensen, deux illustres inconnus, enfin c'est leur premier manga. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, Kiyun nous fait découvrir des jeunes auteurs et c'est plutôt sympa. On a pu découvrir grâce à eux notamment Green Mechanic et Magus of the Library, donc deux excellents mangas qui n'auraient pas eu le jour s'ils n'étaient pas là pour aller chercher ces petites pépites. Donc autant vous dire que quand je lis Kiyun, je me prête à passer un pas si mauvais moment, normalement. Non, je suis passé un bon moment. Vous pourrez croire.
Ah non, mais
Donc, Guess What, donc, c'est leur première œuvre du binôme. Ils, ces deux-là, ils se sont rencontrés en collaborant dans un premier temps sur des pochettes d'albums et des affiches de concerts. Donc, Ubi qui venait dessiner les pochettes d'albums et les affiches de concerts de notre sœur Abensen. Et Abensen, autrefois victime du harcèlement et voulant aborder la violence de la société, il a mis en route ce projet dont le premier tome a vu le jour il y a 5 ans. Donc là, c'est une collaboration qui est déjà de longue date, ce qui est important pour avoir un bon manga. Enfin, d'après moi, parce qu'il y a pas mal de collaborations qui naissent au dernier moment, qui font des choses un peu bizarres dans les mangas. Je trouve que c'est un domaine où il y a beaucoup de collaborations ratées, je trouve. Parlons du manga. Dans Guess What, l'action se situe dans la métropole de Asgard, scindée en deux. À l'est, on retrouve le côté aisé et moderne de la ville. Et à l'ouest, un ghetto où prédominent misère, oppression et injustice. Dans Asgard, les Pumas, une organisation terroriste, viennent s'opposer aux forces de l'ordre. Au milieu de ce conflit, on retrouve les Cops, des sortes de Yakuza étonnamment proches des forces de l'ordre. mais surtout un mystérieux justicier venant au secours des populations du ghetto, son surnom Guess What. Il n'apparaît jamais sans son masque et son casque audio. Malheureusement, la présence de ce mystérieux justicier ne plaît pas à tout le monde et la police envoie à ses trousses Nika, une soldat d'élite. C'est donc un nombre conséquent de protagonistes qui sont introduits en à peine une trentaine de pages. Et il est vrai qu'au milieu du premier tome, on est un petit peu perdu, on est un petit peu dans la confusion, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Et si on n'a pas lu la quatrième de couverture ou si on n'a pas écouté ma chronique, même à la fin du tome, on ne sait pas trop quelle est la situation globale. Et donc, c'est étonnant de voir un manga qui s'appuie autant sur sa quatrième de couverture. Passer cette introduction brutale accentuée par des pages couleurs qui sont particulièrement agréables, il faut le dire. Plutôt rare en ce moment les pages couleurs, mais là c'était agréable de l'avoir et puis elles sont bien faites en plus. On nous plonge directement dans une ambiance. Le schéma du récit est assez classique. D'un côté, les oppressants et de l'autre, les opprimés. Et au milieu, un héros mystérieux, le tout à travers les aventures de la jeune Nika. Le dessin d'Ubique est vif, dynamique, tout en restant lisible. Cela sert parfaitement le manga qui lui donne un rythme et une atmosphère. Mais l'intérêt du manga est dans le thème développé, la justice sociale. Pour le moment, le récit est surtout énigmatique et intriguant. Qui est ce héros masqué? Pourquoi le gouvernement met-il en place autant de moyens pour l'attraper et si peu pour aider son peuple? Du côté des Pumas et de Nika, on se pose aussi beaucoup de questions et le deuxième tome devrait nous aider à y répondre et confirmer le potentiel du titre. Enfin, je l'espère. Au niveau de la couverture, le tome est vraiment très beau et tout aussi énigmatique. On retrouve notre héros avec son masque, son casque audio, mais aussi deux éléments mystérieux, ce symbole sur sa main et cette fleur de lotus. À quoi servent-ils? Seule la lecture du tome pourra vous le dire. C'était Guess What de chez Kiyun, du binôme Ubique et Abensen, et donc pour le moment un seul tome qui est sorti en France.
Et ben c'est génial ça.
Et voilà.
Merci Bertrand.
De rien.
On se refait une petite pause musicale?
Allez.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On se décrasse les oreilles ou 1979?
On se décrasse les oreilles.
On se décrasse les oreilles?
Oh,
allez, on décrasse les oreilles. Allez, on se fait une petite pause avec Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age.
A song for the deaf, that is for you. We'll be right back.
Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h45 et c'est toujours la case de Seb. On vous parle toujours de bande dessinée, manga et comics. Et je vais vous parler de manhwa. Le manhwa, c'est quoi les gars? Personne qui suit.
Ils sont tous sur leur téléphone.
Moi je pensais au manhwa.
Moi j'étais en train de suivre mais je ne sais pas ce que c'est.
Le manhwa, c'est du manga coréen en fait.
Ah bah oui. Pourquoi tu...
Ah ben je voulais que vous puissiez en fait expliquer à nos auditeurs ce qu'était le manhwa.
Ah ouais.
Ça permet d'avoir une interactivité auditeur.
C'est parti sur un dérivé du quinoa, mais c'est pas ça.
Non, aucun rapport. Là, je vais vous parler de Intraitable. C'est de. Alors, je m'excuse pour la prononciation de Choi Kyu Sok aux éditions Rue de l'Échiquier BD. Choi Kyu Sok qui s'était déjà illustré en fait sur plusieurs one shot, alors que je n'ai pas tout lu, mais j'avais lu L'amour est une protéine et puis Le marécage qui avait été publié chez un autre éditeur que Rue l'Échiquier. Quand on m'a proposé de lire Intraitable, ben, je me suis dit pourquoi pas. Et puis le synopsis me faisait faire un petit pied de nez personnel. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais du coup ceux qui me connaissent baptiseront. C'est l'histoire de deux personnages en fait qui vont se croiser et qui vont avoir une espèce de destin commun. Ce personnage a l'air très austère qui toise le lecteur. Sur ce fond rouge et noir qui n'est autre que Gu Goshin qui est le directeur d'une agence conseil de défense des travailleurs, une sorte de syndicaliste surboosté qui va à l'aide en fait de toutes les personnes qui sont en difficulté, que l'on voit au début du tome en fait secourir un jeune homme SDF qui s'est fait virer par son employeur et qui n'a même pas reçu de salaire parce que comme il a moché le scooter, les arriérés de salaire, l'employeur les a gardés. Alors notre Gugushin ne s'embête pas, il va le voir le gars et puis lui réclame les sous. L'autre lui dit bah non, puis tu dégages. Ah ouais, c'est comme ça. Alors le monsieur dégaine son téléphone et commence à appeler toutes les entreprises qui sont clientes chez ce monsieur en lui disant maintenant vous évitez de commander chez lui. Et les gens font ah ouais Gu, c'est toi qui demande. Ok, pas de problème, on va plus commander chez ce monsieur. Et là on voit le patron qui commence à se déconfier et qui finit par plier. Et d'un autre côté, on a Lee Soo-in. Lee Soo-in, c'est un jeune homme qui, pour pouvoir avoir une carrière un petit peu correcte, eh bien, s'est engagé dans l'armée avant de finir par se rendre compte que ça ne lui convenait pas. Et il va finir par s'orienter vers un poste de cadre dans la grande distribution auprès d'une marque française qui tente de s'implanter en Corée du Sud, où se passe le récit. Et ces deux personnages n'avaient aucune raison de se croiser jusqu'à ce que les employeurs de Lee Soo-in finissent par lui dire « Écoute, là on a besoin de toi, il faut que tu dégraisses le personnel par tous les moyens. Quitte à les faire démissionner, ce serait même mieux parce que du coup, faut qu'ils dégagent. » Et Lee Soo-in va se dire que ce n'est pas possible qu'on traite des gens de cette manière et il va commencer à essayer de trouver une solution. Pour ça, là je vous laisserai découvrir la suite après, mais il faut savoir que les deux personnages vont finir par se rencontrer pour pouvoir lutter contre cette grande distribution d'origine française qui a fini par ne pas arriver à s'implanter en Corée du Sud. Un manga qui est un petit peu choc, hein, si vous êtes dans le monde du travail et que vous trouvez que vos employeurs ont des méthodes peu conventionnelles pour vous faire bosser. C'est pas pour vous, le lisez pas parce que ça va vous faire vous sentir encore moins bien. Peut-être que vous trouverez un petit peu d'espoir, mais ça reste quand même hyper hyper pessimiste et hyper dépressif d'avoir cette espèce de David contre Goliath, ce petit employé qui pourtant essaie de faire son job au mieux, qui va se retrouver contre cette espèce de Goliath commercial qui va lui mener une misère sans nom. Et c'est hyper intéressant. C'est en 3 tomes. Trois gros tomes. Hein. On parlait souvent de mangas qui se finissent en série courte. Là, ouais. Les tomes sont un tout petit peu épais. Donc forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est hyper bien. Donc si vous n'aimez pas le noir et blanc, alors là par contre c'est foutu. Hein, puisqu'on est uniquement en noir, blanc et niveau de gris. Comme le manga peut le faire. Par contre, on est plutôt détaillé. Et les personnages sont facilement reconnaissables. Alors, je sais pas si, comment dire, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je préfère le préciser. Et je ne sais pas si les graphismes des personnages rappellent les personnages qui ont pu vivre cette histoire, ouais. Les protagonistes, mais leur caractère est décrit sur leur visage. Gu est quelqu'un d'extrêmement austère, les joues creusées, et on sait que c'est une rigidité sans nom qu'il mène, et que s'il se dit prêt à vous défendre, il va aller jusqu'au bout pour vous défendre, parce qu'il sait qu'il va y arriver. Et c'est hyper bien, c'est vraiment très très beau, c'est d'une vérité dure en fait, c'est ça qui est le plus marquant.
Je sais pas si c'est une généralité, mais je pense que les Coréens font plus de choses comme ça sur leur société, des sortes de critiques, des choses plus crues. De ce que j'ai lu sur les Coréens, c'était toujours des choses un petit peu dures à lire.
Alors,
plus dures à lire que ce que peuvent faire les Japonais.
Ça reste de la critique de société. Après, il faut savoir que là, l'auteur s'est posé la question pendant très longtemps, en fait, de réaliser ou pas cette série, puisqu'il lui a fallu s'immerger, en fait, dans cette société de consommation et cette société, ce milieu du travail. Pendant plusieurs années pour pouvoir arriver à avoir suffisamment de matière à écrire cette histoire.
Ça fait un petit peu comme ces BD enquête, quoi. Comme tu
BD
disais,
reportage, tu veux dire.
BD reportage, ouais. Excuse-moi. Ouais, ça me rappelle un petit peu ça. Et puis, je voyais le jeu des expressions faciales, il est plutôt bien fait. Enfin, en tout cas, ça donne envie de s'y intéresser.
Ça
quand
donne envie de parler de son micro.
Oui, moi ça m'a donné envie de le lire, en tout cas de voir ne serait-ce que le jeu des expressions faciales lorsque je l'ai feuilleté. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, en fait, moi j'ai souvent eu l'impression que lorsqu'on lisait une histoire vraie qui n'est pas amusante, qui n'est pas reluisante, je trouve que ça amène un côté un peu plus trash qu'un truc qui est volontairement trash. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Du tout.
Par exemple, lorsque je regarde un film d'horreur, quand je regarde un film gore, je sais très bien que c'est du gore. Mm. Et ça me met pas mal à l'aise, ou du moins beaucoup moins mal à l'aise que si je regardais un film trash mais réaliste, comme Requiem for a Dream par exemple, qui m'a mis complètement mal à l'aise. Je pense que je pourrais retrouver ce malaise-là dans cette BD.
Alors, je vais pas citer de marque, je vais pas citer de nom de personne et compagnie, mais ce qui se passe en Corée du Sud, faut imaginer que c'est des choses qui se passent quasiment quotidiennement en France, et qui suscitent certainement la grogne actuelle et toutes les manifestations qui peuvent aller. Et ça a un écho qui est extrêmement proche, en fait, sur notre société actuelle, et ça le rend d'autant plus intéressant. Mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Allez-y. Enfin, moi, je suis un grand fan. Enfin, je l'ai commencé, je ne l'ai pas lâché tant que je ne l'ai pas eu fini. Et pourtant, j'étais fatigué quand je l'ai lu. Et c'est vraiment d'une richesse et d'une on ne va pas parler d'horreur, mais d'une précision froide, d'une vérité crue, en fait.
Une réalité crue.
Là. Ouais. Et c'est vraiment très, 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 très bon. Intraitable de Choi Kyu-sok, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier BD, et allez-y, ça vaut vraiment vraiment le coup. 3 tomes, hein, donc ça vaut le coup. Bon, si j'ai pas plombé votre ambiance, on va vous parler d'un truc un petit peu plus fun, tant qu'à faire. On va parler de Tilda sur les toits, c'est de Céd et Karine Bernadou, c'est aux éditions BD Kids, c'est les éditions Milan, hein, BD Kids de mémoire.
Oui.
Il faut savoir que BD Kids, enfin le Tilda, c'est une double sortie en fait. Il y a Tilda sur les toits, sous-titré Le Masque et la Fée, dans la collection Cinéroïne Mort de Lire. Et on peut retrouver Tilda dans le magazine Mort de Lire, et également dans le livre, dans la collection J'adore Lire, où on connaît les origines en fait de Tilda dans le roman Tilda et la cérémonie des fées, qui n'est pas une BD. Donc c'est des petits bouquins qui sont carrés, qui racontent une histoire complète, non, puisqu'il y a un petit 1, il y a un spin-off, il y a un cliffhanger à la fin, mais qui va développer l'histoire pour les jeunes enfants de manière assez, assez sympa, puisqu'on va voir entre 2 et 4 pages qui vont découler une petite scénette, il y aura une autre scénette après, et il y a quand même un découpage en chapitres. Ce qui fait qu'en termes de lecture, ça permet à l'enfant de se poser. Enfin, moi, je trouvais que c'était... Voilà. Même s'il y a quand même pas mal de textes, j'ai trouvé que ce concept-là était plutôt intéressant. Et puis vous allez me dire, mais de quoi ça parle ?
Mais de quoi ça parle, Seb ?
Eh bien, je vais te faire
le résumé.
Et il était une fois, dans le royaume de Port Nawak, une jeune princesse, presque comme les autres. Car si la journée, Tilda était à peu près sage, la nuit, elle devient le masque, une mystérieuse justicière qui protège la cité. Aidée par sa fée, Patrick, qui, avouons-le, ne l'a pas tellement le choix, elle n'a peur de rien et personne ne lui résiste. Personne, vraiment ? Ça, c'est le résumé. Alors, il faut savoir que Tilda, c'est une petite fille qui a décidé d'être une justicière. Hein. On l'a vu dans le résumé, elle devient le masque la nuit. Et elle s'en va avec, bon, sa fée, Patrick, si vous avez remarqué, fée et Patrick, souvent, ça le fait pas. Donc, fée, Patrick, c'est une fée à grandes oreilles. Il faut savoir que les fées, dans le royaume de Port Nawak, elles ne sont pas très jolies. Ce n'est pas les fées traditionnelles qu'on peut connaître. Et du coup, les membres de la famille royale ont tous leur fée. Et Tilda, elle a Patrick qui va l'aider en fait dans sa lutte contre le crime avec ses pouvoirs magiques. Et c'est juste hilarant, c'est vraiment très très bon. On a quelque chose d'assez assez fun avec des pouvoirs magiques qui sont un petit peu nuls. À un moment, Tilda se retrouve emprisonnée. Et la fée décide de faire sauter la porte de Ségon. Bon, il a aussi libéré 90% des autres prisonniers qui étaient là parce qu'il a fait... voilà. Mais c'est super mignon. Il y a plein de petits personnages. Il y a des monstres. C'est vraiment très, 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 très sympa à lire avec vos enfants ou à les laisser lire tout seuls. Je pense qu'ils en redemanderont et c'est vraiment quelque chose qui va leur plaire. Graphiquement, on est sur quelque chose d'assez fun, puisque Patrick, c'est la fée avec des grandes oreilles, un grand nez, elle a rien pour elle, et puis Tilda, elle est cette espèce de petit côté mignon, un petit peu chaboté avec des grandes bottes. That's all, folks. Et 19h57, c'est Porky qui nous rappelle à l'ordre. Je rappelle juste les références, Tilda sur l'étoile, le masque et la fée de Céd et Karine Bernadou aux éditions BD Kids. Oui, c'est ça, c'est des nouveautés que tu n'avais pas vues la semaine dernière. Donc maintenant, on a un rôle et puis Porky se lance tout seul pour nous rappeler à l'ordre. D'accord. Et nous dire attention, il y a le gros bazar qui débarque derrière. Voilà. Donc, on va se quitter ce soir. On se donne rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. N'oubliez pas de lire, restez intelligent. Enfin, il paraît que ça rend intelligent. C'est pour ça que le gros bazar ne doit pas lire beaucoup.
C'est déjà perdu, c'est déjà bête.
Et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, dans pas très longtemps, le générique se lance tout seul. Mais visiblement, j'ai pas bien fait mon boulot. Donc je meuble encore un petit peu.
Patientons,
mais c'est déjà pas mal. La semaine dernière, Porky ne s'est pas lancé.
Oui, voilà, mais on va y arriver.
Peut-être à 58, attends, c'est dans 3
secondes. Peut-être à 58,
attends,
on a à peine une minute.
Hop là.
Le sketch.
Eh ben toujours pas.
Rien du tout.
Non, mais faut que je recalibre ça un petit peu, on va décaler un peu Porky. Et puis voilà, donc...
C'est bien, les gens vont écouter pour savoir si ça marche jusqu'à
la semaine prochaine,
minute.
Tu nous parles de Bitterroot, c'est ça ?
Entre autres choses, ouais. Et puis après, je veux bien parler de Battling Boy aussi de Paul Pop, qui est pas du tout une nouveauté parce que ça sortait en 2003, mais
ah oui.
On s'en fout.
Mais on s'en fiche si c'est bien.
C'est très très bien. Ouais.
Le but Battling est de donner Boy des conseils
Paul
de lecture.
Paul Pop aussi, c'est un auteur qui mériterait d'être connu. Ça veut dire pas en anglais. Et
ne pas confondre avec Paul Pot. Pas
absolument pas. Pas du tout la même carrière, pas du tout le même créneau non plus.
Enfin voilà, c'est sur ces bonnes blagues qu'on va se quitter et je pense que le générique va démarrer d'ici quelques instants. Voilà. On a le gros bazar avec des invités.
Ça n'a rien de fou tant qu'on n'aura pas le générique, ils ne démarreront pas leur émission.
Nous on bouge pas tant qu'il n'y a pas de générique.
On veut le générique, on veut le générique.
Non, dans pas trop longtemps quand même, j'ai faim. Moi.
Alors, Tony, t'avais une chronique peut-être à faire ?
Absolument pas. Je suis navré pour ça. Non, mais tu peux pas juste. Enfin, la technique c'est formidable. Hein, je trouve
bouton,
ça génial.
Ça marche pas.
Démarrer manuellement par exemple, c'est pas.
C'est parti.
Sauvez-vous tous !
Ah bah voilà.
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G 101.5 FM.